la parole de Dieu ce matin. Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as envoyé ton esprit, mais aussi tu nous as laissé ta parole. Et toi-même, tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole, ma parole, ne passera point. Seigneur, merci pour cette parole que nous pouvons ouvrir, entendre, écouter, mais aussi mettre en pratique. C'est ce que nous te demandons, Père, au nom de Jésus. Amen. Je vais ouvrir une petite série de messages sur les conducteurs spirituels. Donc, pour tenir l'horaire, je m'arrêterai au moment où il faudra. Et on prendra la suite la prochaine fois. On va lire dans un passage d'Hébreu, au chapitre 13, et au verset 7. Dans ce passage, dans ce chapitre 13, qui parle de persévérer dans l'amour fraternel, verset 1er, ne pas oublier l'hospitalité, il y a un certain nombre de recommandations. On ne sait pas d'ailleurs qui l'a écrit, le livre des Hébreux. On pense que c'est Paul, mais c'est pas sûr. En tout cas, cet épître se termine par une série de recommandations sur l'amour fraternel, l'hospitalité, le mariage, vous voyez, verset 4, conduite de l'argent, verset 5. Et le verset 7 dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels et considérez leur vie et imitez leur foi. Donc là, vous voyez, on est dans une recommandation de prendre en compte les conducteurs spirituels. C'est vrai que les conducteurs spirituels, ça renvoie à l'autorité qui a été mise à mal en 1968, comme vous le savez, hein, où il n'y a pas que les Français, hein, aux États-Unis, ça a commencé avant, 2 ans avant, hein, la révolution hippie, qui était la même révolution qu'en France en 68, commencée à 66. Et vous savez que Jean-Paul Englert est de ceux qui étaient dans cette révolution hippie, on n'imagine pas. Hein. Voilà. Et qui a été touché par le Seigneur à ce moment-là pour devenir ce qu'il est maintenant. Mais voilà, pour lui, il ne travaillait plus, il ne faisait plus rien, il ne s'occupait plus des voitures parce que Jésus allait revenir d'une seconde à l'autre. Voilà, donc les voitures commençaient à partir dans tous les sens, déglinguer et tout. Vous voyez, quand on va trop loin dans une doctrine, on tombe dans des exagérations. Mais voilà, souvenez-vous de conducteurs. Ce qui est important, c'est que les conducteurs spirituels ont un rôle, mais très souvent, il n'est pas juste selon l'Écriture. Certains considèrent le pasteur comme le pasteur, le révérend. Il y en a qui m'appellent le révérend. Bon, voilà. Donc, suivant les... non, c'est pas ici. Hein. mais bon, dans certaines cultures, il y a un certain nombre de formules qui sont consacrées pour les serviteurs de Dieu. Hein. Et je voudrais, dans cette série, remettre les choses à leur juste place, hein, pour que vous ayez une compréhension biblique. Ce qui doit nous conduire, c'est pas notre culture, même si elle est bonne, hein, mais c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça ? Donc parfois il faut mettre la culture au panier pour la remplacer par la parole de Dieu. Donc j'aimerais que pendant cet enseignement, une série d'enseignements, les choses soient claires. Je veux essayer de parler à partir de la parole et non pas à partir d'une culture quelle qu'elle soit. Et je vais m'appuyer bien sûr sur ce qu'on appelle la trialectique. Alors, trialectique, il faudra que ce mot passe dans votre vocabulaire, c'est trois, et la lectique, c'est à partir d'un dialogue. La lectique, c'est le dialogue. Vous connaissez la dialectique, hein, donc c'est un dialogue à deux, et la trialectique, c'est un dialogue à trois, si vous voulez. c'est tout. Donc il faut banaliser un peu les mots pour que on soit plus affolé par le mot. Mais c'est pas un néologisme, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est quelque chose qui est utilisé de manière assez générale maintenant. Mais voilà, je vais utiliser ce mot-là. Alors Michel, d'ailleurs, l'a appliqué à la fin de son enseignement sur le mois famille, David et Saül. C'est pas encore fini, l'année prochaine tu continueras David, c'est pas fini. Et elle a terminé justement en disant c'est un modèle de trialectique, ce qui s'est passé entre Abigaël, Nabal et David. Ce modèle de trialectique donc, qu'elle a évoqué, en fait, s'applique à l'action, la manière d'agir. Mais la trialectique s'applique à un tas de choses, puisqu'elle est issue à partir de la Trinité divine. Donc elle s'applique aussi à l'organisation, elle s'applique à l'action, elle s'applique à un tas de choses de manière un peu différente. L'outil trialectique se décline un peu différemment, ça c'est un petit peu plus compliqué, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je voudrais que vous compreniez effectivement que dans la parole de Dieu, il y a une approche qui va au-delà d'un simplisme que souvent les évangéliques adoptent. Je ne veux pas les critiquer, mais je dis que nous, notre Église est appelée à être un leader. Et pour être leader, il faut l'idée, il faut conduire, il faut influencer. Mais il faut influencer de la bonne manière, parce qu'on est responsable de notre influence. Si on influence de la bonne, mauvaise manière, on rendra des comptes. Et Dieu nous demandera des comptes. Voilà, donc dans ce cadre-là, la trialectique sera un élément de compréhension à partir de la parole de Dieu, on va le voir tout à l'heure. Donc, elle va s'appliquer à l'action, une vision de l'action, comment on va agir en tant qu'Église. Trialectique peut s'appliquer aussi à l'individu, mais là je ne l'aborderai pas du tout, mais s'applique à l'Église, en tant que communauté, en tant que corps, un corps qui est composé de membres. Donc s'applique à l'action et à l'organisation. Et on va voir en particulier la place du leadership. Alors je vais vous montrer, alors j'ai pas de laser et je l'ai pas, voilà, je l'ai pas découpé en petits morceaux, nos PowerPoint, donc ça sera un peu moins clair que d'habitude et j'ai pas de quoi utiliser. Est-ce que quelqu'un a un laser dans la salle? Non, laser pour pointer, un pointeur laser, non. Bon, c'est pas grave. Je prends plein d'un laser pour tuer. Non, parce que les piles sont mortes là. Bref, la trialectique appliquée au leadership, conducteur spirituel. C'est le leadership, on le verra, donc pensez à vos conducteurs spirituels, qui est donc la place du conducteur spirituel dans cette trialectique. C'est un des trois piliers, puisque trialectique c'est trois, un des trois piliers de la nouvelle humanité en Christ. Vous savez que Christ est mort pour nos péchés, pour l'humanité, mais il est ressuscité le troisième jour. Et pendant sa mort et sa résurrection, il y a des choses qui se sont passées. Il a rétabli une nouvelle humanité. Et quand il est ressuscité, cette nouvelle humanité dont nous héritons, que nous sommes en Christ, mais nous pouvons être en nous-mêmes, dans la chair et l'esprit, rappelez-vous au premier enseignement du torrent qui purifie, quand nous sommes en Christ, nous sommes dans cette nouvelle humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, toute la trialectique repose sur la Trinité. On l'a chanté assez longtemps ce matin, la base de la Trinité. Père, Dieu est un, c'est le schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Il n'y a pas plusieurs dieux. Sauf que le mot hypostase qui est là-haut, c'est un peu flou, donc voilà, je ne suis pas très, très aidé ce matin. Voilà. C'est un peu mieux. Voilà, le mot hypostase, ça aussi, il faut dégommer un petit peu les mots. Ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. Hypostase, ça veut dire ce qui soutient. Un soutien. Hypo, d'ailleurs, hypocagne, c'est avant cagne. Hypothèse, c'est avant la thèse. Hypo, voilà, vous l'utilisez couramment, le terme hypo. Donc, c'est ce qui soutient la divinité. les premiers soutiens de Dieu, enfin ce qui soutient la divinité du Dieu biblique, c'est trois personnes, mais c'est trois hypostases. Dans le concile de Nicée-Constantinople, c'est pas le mot personne qui est utilisé, c'est le mot hypostase. C'est quand ça a été traduit en latin, donc en romain, si vous voulez, les Romains, ils ont utilisé le mot personne. Mais personne, c'est un peu dévoyé parce qu'on est obligé d'expliquer pourquoi Dieu est une personne, Père, Fils, Saint-Esprit. Hypostase, c'est plus neutre et c'est plus juste parce que ça soutient la divinité en tant que Père, Créateur, donc une fonction de création. Dieu crée, c'est grâce à lui que tout a été créé. Fils, qui est serviteur. Jésus a été le serviteur absolu, le serviteur parfait, le serviteur ultime, le serviteur qui on n'aura jamais un serviteur comme Jésus. Hein. Et donc, il est un modèle pour nous et ce sera le modèle du leadership sur le serviteur. Et enfin, le Saint-Esprit qui est vivificateur, qui vivifie, qui apporte la vie. Le premier homme, Adam, il est dans la chair, il est dans la mort. Et le deuxième Adam, il vivifie. Ça, c'est l'enseignement de Paul aux Corinthiens. Il vivifie. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons la vie et que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, a été revivifié et ressuscité d'entre les morts. Voilà donc ces trois personnes, hein, ou hypostases, Père, Fils, Saint-Esprit, sont les modèles, sont un modèle, ce qu'on appelle un modèle ternaire, un modèle en trois dimensions, si vous voulez, en trois pôles, en trois, tout ce que vous voulez, peu importe, trois éléments, qui sont les trois hypostases, qui sont la base du credo de Nicée-Constantinople, qu'on connaît un peu moins que notre Père, qu'on prie, notre Père qui est aux cieux, etc. Mais le credo est quelque chose qui réunit tous les chrétiens, tous les chrétiens. Vous voyez, on parle d'unité, on parle d'œcuménisme, on n'a pas besoin de chercher tout ça. Le credo, il est accepté par tous les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, voilà. C'est la base de notre foi. Voilà, on le connaît moins bien, mais c'est la base. Et on est tous d'accord là-dessus, et les réformateurs aussi n'ont pas mis en cause le credo de Nicée-Constantinople, qui ont été établis par les pères de l'Église. Donc, ce modèle ternaire a conduit à écrire ce credo. Nous croyons en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La triélectique, c'est simplement une méthode qui utilise ce modèle ternaire pour le décliner en action. Comment est-ce qu'on va agir en tant que communauté? Comment est-ce qu'on va s'organiser en tant que communauté? Vous voyez, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai une assurance dans l'enseignement que je vous apporte, parce que je sais qu'il est biblique, parce que tout est basé là-dessus. Il n'est pas basé sur ce que je pense, sur ce que les uns pensent, sur ce que les autres pensent, mais c'est ce que la Bible enseigne. Alors, ces trois hypostases de l'être biblique, l'être, ça renvoie à la description du Dieu Yahvé. Hein, Yahvé, quand Moïse a dit, ok, tu m'envoies vers le peuple en Égypte, mais je vais dire de qui je viens, de qui est-ce qui m'a envoyé. Et il a révélé son nom. Il a dit, je suis celui qui suis. Donc Dieu, le Dieu biblique, c'est celui qui est, c'est l'être, l'être absolu, l'être par définition. Nous sommes parce que lui, il est. Lui, il est éternel, infini, il n'a ni origine ni fin. Nous, nous sommes, mais nous sommes créés, nous sommes des créatures. Nous resterons des créatures, nous sommes des créatures. Et c'est ça qui doit être à la base de notre humilité dans tout ce que nous faisons, notre ministère et autres. Donc les trois hypostases de l'être biblique, donc du chrétien, si vous voulez, il est basé sur le fait qu'on doit être tourné vers Dieu Père, on doit tourner vers l'évangile de la parole, donc la nouvelle qui est basée sur la parole. Hein, et vous savez que Jésus a été, qui est le Logos, qui est la parole, qui s'est incarné comme parole vivante, et quand il parlait, eh bien, même les Juifs disaient, personne n'a parlé comme cet homme. Personne. Jésus a une parole qui était totalement hors d'un propos humain, parce qu'il avait une sagesse qui venait de Dieu. Et le troisième élément qui est tourné vers l'évangile de puissance. Nous avons besoin de puissance. Et l'apôtre Paul le dira majestueusement dans l'épître aux Corinthiens en disant « Nous ne nous appuyons pas sur la sagesse des hommes, sur la philosophie, sur la sagesse qui est véhiculée par les humains, mais nous appuyons sur la puissance de Dieu. » Et la puissance de Dieu est basée sur la croix. Sur la croix. Et si nous oublions la croix, il n'y a plus de puissance. Parce que la croix, c'est la mort et la résurrection. Puisque Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Donc c'est les tourner vers Dieu Père Créateur, tourner vers l'évangile de la parole, tourner vers l'évangile de puissance. Quand on est tourné vers Dieu le Père, il donne du sens. Et aujourd'hui, les gens cherchent du sens. Olivier me dit tout le temps, oui, il y a des gens qui viennent, ils cherchent du sens. Voilà, ils cherchent du sens. Voilà. Mais il n'y a pas plus de sens que ce que nous, on a reçu. Donc ne restons pas avec le drapeau dans la poche. Hein. Nous, nous avons le sens. Parce que nous n'avons pas juste le sens pour la vie. Hein, gagner, métro, boulot, dodo. Hein, mais ça s'arrête. Nous avons un sens pour l'éternité. Alors, dis à ton voisin, tu as un sens pour l'éternité. Hein, voilà. Le sens de notre vie va plus loin que simplement réussir sa vie sur la terre. Hein. D'ailleurs, très souvent, elle peut être abrogée. Hein. Vous voyez, le frère de Ruth, malheureusement, 40 ans, la vie s'arrête. Donc le vrai sens, c'est celui que nous, on a reçu et qu'on doit donner à ceux qui cherchent du sens. Alors, n'ayons pas peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir honte du message, au contraire. C'est un message qui donne du sens, qui donne le vrai sens à la vie et la vraie motivation pour laquelle nous vivons ici. Donc il donne du sens et notre identité dans cet élément hypostatique, le premier, c'est d'être des adorateurs. Des adorateurs en esprit, en vérité. Et c'est pour cela que ce point-là est capital et auquel l'ennemi s'attaque, pour transformer l'adoration en idolâtrie. Souvent, les idoles sont très proches de la véritable adoration. Pourquoi ? Parce qu'une idole, c'est pousser le bien plus loin. Voyez-vous, souvent les idoles, c'est des belles images, des belles statues, des belles... Voilà, c'est beau, enfin, d'une certaine manière, mais on le pousse trop loin. Voyez ? Alors que l'adoration, ce n'est pas chercher une image, c'est chercher Dieu lui-même. C'est chercher la réalité de l'existence de Dieu. Je suis celui qui suis. Il n'y a pas d'image qui peut représenter Dieu, puisqu'il n'est pas de l'ordre de la création. Mais souvent, nous, on cherche, et c'est pour ça que les gens disent « Ah oui, mais le protestantisme, c'est austère, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de vitraux, des choses comme ça, etc. Bon, » c'est beaucoup ça qu'on reproche au protestantisme. Mais justement, le protestantisme a réagi par rapport à toute l'imagerie qu'il y a eu au Moyen-Âge. Vous regardez, quand vous visitez les églises, sont remplies d'or, remplies d'idoles, remplies d'imagerie, etc. Voilà. Et parce que l'être humain cherche quelque chose qu'il adore. Il est fait pour adorer. Mais si on n'adore pas le vrai Dieu, on adorera des idoles. Et même les chrétiens évangéliques ne sont pas du tout immunisés contre cela. Donc soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est ça le vrai sens du projet Moving Glad. Parce qu'on s'est aperçu que le dimanche, bien sûr, on vient pour adorer, mais bon, on est limité dans le temps. On ne va pas vous garder 3 heures ou 6 heures pour certains. Bon, certaines cultures, ça ne dérange pas, mais bon, il faut rester dans sa culture. Mais on veut quand même des temps de qualité dans l'adoration. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un projet de réforme pour avoir au moins une fois tous les trimestres un véritable temps d'adoration où on n'est pas pris par le temps. Et c'est pour ça que certains ont proposé 2 heures. J'ai dit à David, non, on reste à 3. Parce que après ça va être 1 heure, après ça va être 1/4 d'heure. Et puis voilà, pourquoi pas. Bon, vous voyez, il faut que tout soit vite. Hein, il faut que ce soit la machine à sous, il faut que ça descende. Non, il faut du temps. Et une fois par trimestre, je pense que c'est quand même pas... trop demander pour être des adorateurs? Est-ce que nous voulons être des adorateurs ou pas? C'est la question. Est-ce que nous voulons être des consommateurs ou des adorateurs? Oui. Consommateurs de biens ou adorateurs? Nous sommes challengés. Hein. C'est, nous sommes dans le monde. Hein. Et le Seigneur, il est mort pour le monde. Mais le monde, il est régi par Satan. Hein. Le monde est régi par Satan. Donc ne nous trompons pas d'objectif. Donc, adorateur en esprit en vérité. Quand on est tourné vers l'évangile de puissance, on doit influencer par la parole. Par la parole. Mais si la parole n'est pas suivie d'actes, eh bien, le leadership n'a pas d'efficacité. Il dit, regardez leur fin. Il y a beaucoup de serviteurs qui terminent mal. Parce que ils sont partis sur la parole, mais ils n'ont pas appliqué la parole. Et petit à petit, la parole est devenue creuse. Vous voyez, c'est devenu, c'est, le discours continue à être prêché, mais il n'est pas vécu. Et là, ça fait un écart, on s'en aperçoit, et l'ennemi s'en sert. Et c'est terminé pour la puissance dans la parole. Et tourner vers l'évangile de puissance qui transforme les vies. Et pourquoi on a choisi le mystère de la maison d'Élie? Parce qu'il doit nous transformer. Il doit nous aider à devenir meilleurs. C.S. Lewis l'a très bien dit, un chrétien qui ne devient pas meilleur, il devient pire. Il devient pire qu'un païen, pire. Parce qu'il utilise la spiritualité, il utilise la Bible, il utilise les versets pour se justifier et pour taper sur l'autre. Donc, il faut devenir meilleur. C'est une nécessité. Parce que si on ne devient pas meilleur, on devient pire. Et nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Amen. Alors, on va continuer. Les trois hypostases, donc les trois soutiens de l'humanité biblique. Donc l'humanité biblique, c'est l'humanité adamique. Hein, donc nous sommes d'Adam. Nous devons être des adorateurs. On revient aux trois éléments, des influenceurs et des agissants. Ceux qui agissent. Il faut agir. Parce que si on est vivant, on agit. Ceux qui sont morts, ils n'agissent plus. Hein. Particularité des êtres vivants, c'est qu'ils agissent. Donc, des adorateurs, et nous devons avoir, et nous avons, en tant qu'adorateurs, la conscience du divin, du transcendant. C'est pour ça que les athées, entre guillemets, ça n'existe pas. Enfin, ça existe parce qu'ils se disent athées. En fait, ils ont la conscience de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui le révèle dans Romains, chapitre 2, de manière extraordinaire. Donc, Dieu a placé dans chaque être humain la conscience de l'éternité. Dieu a placé en chacun de nous la conscience qu'il existe quelque chose au-dessus. Voyez. Et même les athées, les républicains, laïcs, et tout ça, bah, ils placent quelque chose au-dessus. Hein. C'est la raison. Hein. Mais la raison divinisée, hein, c'est une transcendance. Une transcendance, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus, qui est une valeur au-dessus. Nous, on sait tous qu'on va mourir. Mais n'empêche qu'on place quelque chose au-dessus pensant que ça va nous aider. Hein? Mais ça ne nous aide à rien du tout. C'est comme le singe qui tire sur ses moustaches pour sortir de la vase, hein? Des sables mouvants. Hein? Et il faut quelque chose qui soit stable au-dessus de nous, sur laquelle on puisse tirer pour nous sauver. Et ça, c'est Jésus qui est venu pour cela. Et donc la transcendance, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est transcendant, trans, ça veut dire au-delà de ce que nous vivons, et qui nous tire. Et ça, c'est en chacun de nous. Dieu a placé dans la conscience de l'homme l'éternité. Par contre, il se bagarre. Hein, toutes les philosophies et tout ça se bagarrent pour discutailler, etc., sur ces sujets, mais ils s'en sortent jamais. Parce qu'un philosophe va sortir un truc, l'autre ne va pas être d'accord, etc. Ouais, le nombre de philosophies qu'il y a, de recherche de sagesse et de vérité, parce que personne n'est d'accord avec l'autre. Hein. Pourquoi? Parce qu'au fond, de chaque être humain, il y a la conscience de l'éternité, la conscience qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Et dans le communisme, où ils ont voulu éradiquer tout ce qui était religieux, bah, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. L'être humain, il a été créé avec une conscience de l'éternité, quelque chose qui le dépasse. Dans le deuxième hypostase ici de l'être humain, c'est que une société, quelle qu'elle soit, un rassemblement de personnes, ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de leader. Elle ne fonctionne pas. Okay. Ne serait-ce que vous êtes tous occupés toute la semaine à faire un tas de choses. Et s'il n'y avait pas de leader, il n'y aurait pas de communauté. Enfin, elle ne resterait pas longtemps. Elle resterait peut-être le temps de quelques dimanches. Voilà. Mais il faut que quelqu'un s'occupe de la communauté elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie aussi du plan de Dieu. Et Jésus, il l'a montré quand il est venu, il avait une mission de la part du Père. Cette mission, elle est confiée aussi donc à des leaders qui doivent entraîner. S'ils n'entraînent pas, ils ne peuvent pas être leaders. Ils sont là, mais si chacun fait ce qu'il veut, voilà, ça ne marchera pas et ça n'avancera pas la communauté. Et ce sont des agissants, des gens qui agissent, ou des charismatiques. Alors, le mot charisme, ça vient de grâce aussi. Il y a John Wimmer qui avait bien trouvé un néologisme qu'il utilisait. Maintenant, il y a un livre qui est sorti sur ses enseignements, John Wimmer, qui avait un don particulier pour justement établir des choses dans l'Église, et en particulier dans le travail d'équipe. Il se déplaçait avec des équipes, parfois jusqu'à 60 équipiers, qui se déplaçaient pour prier pour les malades, etc. Et donc, il appelle ça les gracelets. Gracelets, c'est les dons de grâce du Saint-Esprit qui agit et qui transforme. Et ça, c'est l'enseignement de tout 1 Corinthiens 12 et 14. C'est le fameux sandwich de l'amour où le Corinthiens 13 est au milieu. Et vous avez le sandwich 12 et 14 qui parle des dons spirituels, des gracelets, des dons de grâce qui sont donnés à chacun. Dieu distribue ces dons à chacun dans la communauté. Quand la communauté est rassemblée, chacun reçoit des dons. Ce n'est pas que le pasteur ou que le révérend ou que le leader qui a une onction. Voyez-vous, ça, c'est une vision catholique. Une vision catholique des choses, mais pas une vision biblique. Les bracelets, ce sont des dons de grâce que Dieu distribue. Ils peuvent être différents à chaque culte. Elsa peut avoir un don pour la louange, mais elle peut aussi avoir un don de guérison, une autre fois un don de prophétie, une autre fois un don de foi, une autre fois un don. Vous voyez, et chacun pareil. Ouais. C'est pour ça qu'on doit dépendre du Saint-Esprit. On ne doit pas dépendre de nos dons. On ne doit pas dépendre de ce qu'on a reçu comme si c'était une marque. Voilà. Je suis le révérend. Alors, révérend. Faites-moi la révérence, ouais. Parce que j'ai l'onction. J'ai l'onction. Dès que c'est comme ça, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Voilà. Donc les dons de grâce du Saint-Esprit sont donnés à ceux qui agissent de manière charismatique. Donc l'aspect charismatique, c'est lié aux gracelets, aux dons de grâce pour agir selon le peuple de Dieu. Alors, je vais développer un tout petit peu pour aller vers le leadership. Donc, le premier élément, première hypostase, c'est ce que le Père demande. Dans Jean, chapitre 4, verset 24, il dit « L'heure vient », c'est Jésus qui solennellement s'adresse aux disciples, il dit « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le Père demande des adorateurs. Il est jaloux d'avoir des vrais adorateurs, en esprit, en vérité, parce qu'il sait que si on se dégage de la vraie adoration, on tombe dans l'idolâtrie, on tombe dans l'adoration des idoles. Et Dieu est jaloux de cela, parce qu'il sait que ça va nous faire du mal. Il sait que toute idolâtrie va nous faire du mal. Donc la jalousie, c'est vis-à-vis de nous, il veut nous protéger, nous garder. Et c'est le sens du projet Moving Glad et de la maison de prière pour toutes les nations, Elisabethel, qui va être installée le plus rapidement possible pour que nous puissions être des vrais adorateurs. Les agissants, donc c'est l'autre hypostase, l'autre soutien de l'humanité biblique, qui est les dons charismatiques de grâce à disposition de tous. John Wimber disait les églises qui désiraient être adoratrices de Dieu, centrées sur Jésus et dirigées par l'Esprit, mises à part, donc séparées du monde, pour les fins du royaume de Dieu. Et nul autre que dans notre époque n'a démontré cette vérité que John Wimber avec ses équipes. Où il venait, c'était pas lui qui faisait tout, mais c'était les équipes qui agissaient parmi le peuple chrétien qui était là pour exercer ces ministères de guérison, comme Jésus, comme au temps de Jésus, qui envoyait ses disciples dans le monde de l'époque pour guérir, pour agir et manifester les œuvres du royaume. Le concept de John Wimber, des Gracelets, ça consiste à redonner les cadeaux aux dieux qui les possèdent et les exploitent. C'est-à-dire qu'on ne saisit pas un don pour le garder. Vous voyez ? Moi, je ne parle pas des cinq ministères, évangélistes, etc. Ça, c'est particulier, on en parlera tout à l'heure. Mais là, c'est les dons que Dieu donne à chaque chrétien au moment où il en a besoin. Si Bruno est dans le train, il voit quelqu'un qui a un besoin, etc., il répond en fonction de ce don-là. John Wimber, très souvent, il évangélisait dans l'avion. Alors, la particularité qu'il avait souvent, c'est qu'il s'affichait sur le front des mots et il lisait les mots. Et donc, il évangélisait. Et soit la personne était en adultère avec quelqu'un. Et donc, il était confondu et elle se donnait au Seigneur. Et quand il descendait de l'avion, elle était chrétienne, convertie, et elle allait à l'église. Voyez. Donc, c'est des dons d'évangélisation que Dieu veut donner. Si vous y croyez, vous les aurez. Parce que ce n'est pas donné à quelqu'un qui a un talent particulier. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons à chacun en fonction du besoin qu'il y a au moment où vous avez besoin. Et pour ne pas se glorifier, eh bien, ce don-là, il va disparaître. Dès que vous l'avez utilisé, vous en aurez un autre. Voyez-vous ? C'est ça le principe de Gracelet. Consiste à redonner les cadeaux à Dieu, c'est-à-dire le don qu'il m'a donné, je le redonne. Seigneur, c'est à toi. C'est le fameux soli deo. Gloria en latin, que Jean-Sébastien Bach signait à chaque partition. Et Dieu sait combien il a fait de partitions dans sa vie. Et à chaque fois, il mettait soli deo gloria. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Et ce n'était pas juste un mot, ce n'était pas juste une phrase. C'était quelque chose qu'il croyait profondément. Et on le voit dans ses œuvres qu'il a écrites, qui sont extraordinaires. Donc rendons à Dieu la gloire qui lui est due. En prenant le cadeau, le Gracelet, et en lui redonnant, et en attendant un nouveau Gracelet, en redonnant. Vous voyez, donc, du coup, ne devenons pas propriétaires d'une onction particulière qui va devenir ensuite après une idolâtrie. En vérité, c'est Jésus de Nazareth, le Fils ressuscité de Dieu, qui possède réellement les dons de l'Esprit et qui les donne, qui les distribue à chacun selon son besoin. Et à mesure que nous apprenons à le suivre, et en nous reportant et en préférant sa volonté au nôtre, Jésus peut alors travailler avec le Saint-Esprit en nous à l'utilisation de ses dons pour des besoins particuliers. Autrement dit, Jésus, c'est le chef d'orchestre. C'est Jésus qui dirige son Église. C'est lui le chef. Donc il distribue les dons, il donne un don à Rose, il donne un don à Femme. Blandine, voilà. Un don à Marie-France, un don. Voilà. C'est lui qui distribue. Donc nous devons être reconnaissants à Dieu qui donne, à Jésus qui nous donne. Il a dit je vous enverrai mon esprit. Voyez. Mais il n'enverra pas une fois le Saint-Esprit pour qu'on soit possessionnaire du Saint-Esprit. Voyez. Ça, souvent, c'est un tort des charismatiques, justement, qui ne sont pas assez prévenants. Par rapport à ça, assez humble par rapport à ça, assez en recul par rapport à ça. Et du coup, ils se mettent à dos les autres, les évangéliques ou les classiques ou les autres chrétiens, parce qu'il y a une supériorité. Alors je ne donnerai pas de nom ou quoi que ce soit, mais certains sont considérés comme oh, ils sont supérieurs aux autres, ils sont plus excellents, ils ont plus le plein évangile, voyez, donc ils sont au-delà des autres, etc. Tu veux dire quelque chose, Lucie ? Tu as bien compris ? Non, je me suis mal exprimé. Les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on l'a reçu au moment de la nouvelle naissance. Donc, on a le Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous permet de dire Abba, Père. Si on peut dire Abba, Père, c'est que le Saint-Esprit est en nous. Là, je parle des dons, les bracelets. C'est-à-dire, les dons particuliers, c'est l'application de 1 Corinthiens 12 et 14. C'est le sandwich spirituel où 1 Corinthiens 13, c'est l'amour. Le passage de l'amour, l'amour est patient, l'amour, etc. Mais lisez 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, et c'est de cet enseignement dont il est question. C'est les dons de grâce, les dons particuliers pour le ministère, pour agir. Merci, Lucie. N'hésitez pas à m'arrêter pour des compréhensions, parce que des fois, je fais des raccourcis, c'est vrai. Un auteur a écrit que l'opération des dons de l'esprit dans cette vie, le doigt d'enfant de Dieu distribue les dons comme il veut et à qui il veut. Ça, c'est un passage de l'écriture que d'ailleurs j'ai appris à Soda Pop et Christine qui ne le connaissaient pas et qui l'ont vite noté à propos de la danse. La main dansante de Dieu, c'est dans Corinthiens, qui distribue les dons quand on est réunis. Et ce qu'il faut, c'est saisir ce don-là à ce moment-là, et c'est quelque chose qu'on doit ressentir sur le plan spirituel, qui doit se développer sur le plan spirituel, pour savoir à un moment donné de le donner. Parce qu'il ne faut pas le garder, il faut le donner, parce qu'il appartient à Dieu. Il faut le donner, que ce soit une vision, une révélation, une parole de sagesse. C'est pour ça que je suis à votre disposition. Bien sûr, il faut quelqu'un qui préside pour pas que tout le monde parle en même temps. Mais en même temps, il faut le faire. Parce que c'est là l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, qui utilise les uns les autres. Et tous, à chaque fois que vous venez dans un culte ou dans une réunion, eh bien vous pouvez être utilisé et Dieu s'attend. Pourquoi ça ne se passe pas ? Parce que, t'as de raison, qui vous bloque, mais il ne faut pas se laisser bloquer, il faut se laisser libérer. Nous devons être un peuple libéré. Et enfin, le troisième hypostase, donc le troisième soutien de cette ternarité de l'humanité, c'est le leadership. Alors, leadership, donc vous voyez, il y a toujours eu des leaders dans la Bible. J'ai pris David, mais il y en a eu avant, Abraham, David, Esdras, Néhémie, Daniel, Jésus, bien sûr, Paul, Pierre, les apôtres, Martin Luther King. Et aujourd'hui, dans notre génération, il faut qu'il y ait leaders qui se lèvent. Dans chaque génération, il faut des leaders. Okay ? Et nous sommes challengés dans cette réalité aujourd'hui. Il faut savoir que cette année, je vais avoir 70 ans, je ne vais pas rester avec vous éternellement non plus. Donc il faut des leaders qui... Et je dois former des leaders, Michel aussi. Et nous sommes là pour cela, parce qu'il faut transmettre. Et l'intergénérationnel, c'est transmettre le leadership. Alors si des questions qui touchent au leadership sont en vogue en ce moment. Tout le monde parle de leader, leadership, etc. C'est un mot anglais, anglo-saxon. C'est que ça correspond quand même à un besoin de l'Église. Il y en a plusieurs qui ont fait la formation de leadership, Paul Goulet. Quels sont ceux qui l'ont fait ? Je sais qu'il y en a 17 plus 2, ça fait 19, vous voyez, il y en a beaucoup qui ont suivi la formation de leadership, Paul Goulet, qui est excellente d'ailleurs, et qui justement utilise le mot leadership. D'après les statistiques, nous serons et nous sommes déjà confrontés au problème du renouvellement des ministères de manière générale dans l'Église. Vous savez, dans l'Église catholique, ils ont moins, ça on ne le sait pas, qui a quand même été la religion de la France, la religion de l'État français. Je ne sais pas combien il y avait à une époque, mais aujourd'hui, des prêtres qui sont formés, il y en a moins que des évangéliques qui sont formés à la fac de Vaud et à la fac d'Aix. Vous vous rendez compte ? C'est pour ça qu'ils importent des prêtres. des Roumains, des Tchèques, des Africains, et tout ça. Voilà. Et, comme quoi, la vocation, hein, le leadership, est en baisse énormément. C'est vrai aussi aux États-Unis, qui ont beaucoup d'évangéliques. Hein. C'est vrai aussi en France, dans tous les... Il y a moins de leaders et un manque de leaders pour les églises. Et nos institutions, voilà, ils ont mis en place des formations, mais nous devons former dans l'Église des leaders. Et j'en ai parlé à Tom assez longuement, pour que, parce que lui, il veut servir à plein temps l'Église, donc on a un devoir de formation envers lui, mais il y en a d'autres qui se lèvent et qui doivent avoir le bénéfice de notre formation. La diversité des ministères implique une formation spécifique, appropriée, adaptée à chaque église locale. Parce que chaque église locale a, comme chaque famille, a son ADN génétique. Et il doit répondre, cette transmission doit répondre à cette famille d'ADN génétique. Il revient donc au leader de former non seulement ceux qui travaillent, celui qui, donc moi en l'occurrence, ceux qui travaillent avec lui, mais également ceux qui doivent l'exercer par la suite dans l'Église. La notion de leadership, ce n'est pas juste un agent de maintenance hein, pour maintenir l'Église à niveau, à flot, etc. L'Église a besoin de leaders non seulement conscients des enjeux du présent, mais aussi des visionnaires qui doivent prévoir les besoins futurs de l'Église locale. C'est ça un vrai leader. Il doit voir plus loin, parce que sinon, il n'est pas leader. Et nous devons nous appuyer sur les capacités de Christ, qui doit nous équiper pour être un véritable leader. Alors, bien sûr, il y a la terminologie du leader qui bloque les Français. Je sais, par exemple, le pasteur Oleksiewicz, pour ne citer que lui, il n'y a pas tant de parler de leader, parce que ce n'est pas français. Bon. OK, alors, si on commence à se bloquer sur, là-dessus, effectivement, on va passer à côté du message qui est derrière qu'est-ce qu'un leader, etc. Alors, ceux qui sont réfractaires à l'usage de ce mot, hein, sous prétexte qu'il est issu des milieux d'affaires et du management, c'est vrai, que c'est le MBA, par exemple, que Samuel a fait, c'est Master of Business and Administration, il y en a d'autres, etc., qui utilisent le mot leader, donc on le connote à ça. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'on le connote à ce que fait le monde qu'on doit faire comme le monde. Mais... et on doit prendre les bonnes choses là où ils sont, sinon même la Bible, tous les mots qui sont utilisés en grec ou en hébreu, surtout en grec, sont utilisés par les philosophes, par les gens de leur époque. Et c'est pour ça qu'il faut une étude biblique pour voir quel mot, ce que veut dire le mot qui est utilisé, qui n'a pas le même sens. Hein, donc il y a un autre sens à donner, qui est le sens du contexte biblique. Mais si on laisse de côté un petit peu cette peur d'utiliser le mot leadership, il est incontestable que l'exercice du leadership est lié aux responsables de l'Église, ceux qui sont les responsables, ceux qui doivent répondre de ce qui se passe dans l'Église et doivent se démarquer, bien sûr, du milieu du monde. Mais ce n'est pas facile parce que, comme tout à l'heure, on l'a vu pour chacun d'entre nous, nous sommes influencés par le monde. Les leaders aussi sont influencés, et en particulier par le monde du business et le monde de l'efficacité dans le business. Donc, quand on parle leader, en tout cas, comme moi j'utilise le mot leader, leadership, vous pouvez entendre dans la Bible le mot pasteur, le mot ancien, et ensuite après des fonctions, on les verra tout à l'heure. Certains préfèrent l'expression de berger. Voilà. Pasteur est un berger, bien sûr. Pasteur veut dire berger. Ok, pourquoi pas. Restons sur le mot berger. Pour donner une note plus biblique, hein, au lieu du leader. Toutefois, dans la pratique, quand on regarde la pratique, hein, parce que c'est quand même important de voir la pratique, bien que leader puisse être pasteur, L'inverse n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas leaders. Est-ce que vous me suivez? Moi, je connais beaucoup de pasteurs. Ils ne sont pas leaders. Bien sûr, ils s'occupent des brebis. Ils s'occupent même extrêmement, peut-être de trop. Parfois, ils écouvent les brebis, à tel point qu'on arrive à du shepherding. Shepherding, c'est quoi? C'est un mouvement aux États-Unis, d'ailleurs, dans lequel a versé aussi Derek Prince, qui s'est repenti officiellement devant tout le monde d'avoir suivi cette voie-là. Le shepherding, c'est un pasteur qui couvait tellement les brebis que, par exemple, Blandine, si tu vas aller aux toilettes, tu dois avoir mon autorisation. Sinon, tu n'as pas le droit d'y aller. Il faut lever la main, vous voyez. Le shepherding allait jusque... Oui, non, c'est ça le shepherding. Hein. Mais non, mais... Vous rigolez, mais c'est sérieux. Hein. Aux États-Unis, le shepherding, c'était un mouvement qui était pratiqué, y compris par Derek Prince. Et dans les séminaires, effectivement, les gens se permettaient pas d'aller aux toilettes sans demander l'autorisation d'y aller. Alors, shepherd. Alors, voilà. Alors bon, en Angleterre, il y a eu beaucoup de shepherding aussi, des mouvements entiers qui étaient là-dedans. Vous voyez, comme quoi, quelque chose de bon peut devenir une idole. Alors, donc, un pasteur n'est pas forcément un leader. Mais un leader peut être pasteur. C'est-à-dire un pasteur qui n'est pas leader, eh bien, il ne va pas pouvoir conduire le peuple de Dieu tel que la Bible le dit, on le verra par la suite. Néanmoins, berger, c'est un bon mot, n'est pas incompatible et complémentaire avec le mot leader. L'expression leader n'est rien d'autre que la traduction du mot dirigeant, celui qui dirige, okay, qui est plus français bien sûr que le mot conducteur. Tout à l'heure on a vu les conducteurs, n'oubliez pas vos conducteurs, celui qui dirige, que nous trouvons à titre d'exemple par exemple dans l'épître de Paul aux Romains, qui évoque les dons spirituels, c'est dans Romains 12, 8, vous pouvez le noter, que celui qui préside le fasse avec zèle. Président, celui qui préside, c'est un leader. C'est un leader, celui qui influence l'Église, bien sûr, la réunion qu'il dirige, dans le sens de la direction, pour conduire les choses à direction. La langue anglaise et la langue française ne font que traduire le texte en grec qui signifie celui qui gouverne, celui qui dirige ou qui préside une réunion ou une assemblée. Il y a d'autres expressions dans le texte original qui viennent compléter ce sens, dans Romains 12, c'est présider, dans 1 Corinthiens 12, 28, c'est gouverner, dans 1 Thessaloniciens 5, 12, c'est diriger, dans Hébreux 13, 7, on l'a lu tout à l'heure, c'est conduire, et dans Actes 15, 22, c'est des hommes estimés par les frères. Voilà, je vais terminer. Tous ces termes nuancés par notre langue française sont traduits en anglais par des expressions ayant trait au leadership. Le leadership, vous voyez, c'est un état du leader qui couvre tout ça. C'est l'avantage de l'anglais, c'est qu'ils ont une capacité de créer des concepts de mots qui couvrent un certain domaine. Donc le leadership, c'est ce qui couvre tout le domaine de ce qu'un leader doit faire. À l'exception des cinq ministères, Éphésiens 4, 10, hein, qui sont définis par eux-mêmes. Ils ont une autre définition. Les termes employés dans le Nouveau Testament peuvent être interchangeables, comme par exemple ancien et pasteur, c'est interchangeable, selon 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 et 2, et se réfère aux responsables de l'Église. Alors leader, responsable ou pasteur, eh bien, c'est la même chose. Toutefois, il faut souligner dans Romains 12 que le texte fait référence au Dieu, au don que Dieu accorde à l'homme selon sa bienveillance. Et on parle toujours de leader charismatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Un leader qui n'est pas charismatique, il n'entraîne pas. Donc le mot charismatique introduit la notion de don, justement, d'entraîner, d'influencer. Et dans l'Église, bien sûr, il faut que le leader soit charismatique. Donc, je vais terminer par une définition qu'on pourrait donner de ce que je viens d'exprimer. C'est un leader, c'est un responsable ou une personne avec des capacités et des responsabilités qui lui sont données par Dieu, qui exerce une influence sur un groupe spécifique du peuple de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu dans ce groupe. Je répète, un leader est un responsable et une personne avec des capacités et des responsabilités qui lui sont données par Dieu, qui exerce une influence sur un groupe spécifique du peuple de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu pour ce groupe. Vous voyez, c'est toujours orienté pour glorifier Dieu. Amen. Mais le leader et le leadership, hein, qui couvre tout le domaine des leaders, on verra plus spécifiquement quels sont ces domaines de leadership qui doivent être exercés. Donc, passer du mot révérend au mot pasteur, au mot etc., au mot leader, pour être plus général, mais ceci étant, vous pouvez toujours continuer à utiliser ces mots-là, ils sont interchangeables. Sauf que dans notre tête, il faut savoir que ce n'est pas le seul hypostat, ce n'est pas le seul fondement de la communauté. Les autres fondements, c'est les adorateurs, que nous sommes tous, voyez, qui est aussi important que le leadership, et les agissants, ceux qui agissent par les gracelets, par les dons, qui sont exercés par chacun, qu'il reçoit du Saint-Esprit à chaque instant. Donc il faut être ouvert au Saint-Esprit, il faut s'attendre au Saint-Esprit, et ça c'est la responsabilité de chacun. On ne peut pas mettre la responsabilité sur un leader. Nous sommes tous appelés à être obéissants. C'est pour ça qu'on ne peut pas montrer du doigt un leader, ou que le leader montre du doigt le peuple de Dieu. Tous, de manière égale, dans ces trois domaines, nous avons des responsabilités. Et c'est comme ça que l'Église peut marcher correctement. C'est comme ça que l'Église évite les polémiques entre les leaders et les non-leaders. C'est là que l'Église évite les conflits. Et si on vient à la racine de ce que Jésus a établi, j'établirai mon Église. L'Église, c'est une communauté qui est ternaire, qui est basée sur cette trialectique de ternarité. Et aujourd'hui, bien, nous avons des gros problèmes dans les églises évangéliques, parce que parfois on met l'accent sur le leadership, en oubliant l'adoration, en oubliant le reste, etc., ou l'inverse. Alors bien sûr, on ne peut pas être équilibré en même temps sur les trois, parce qu'on est humain. Mais il faut penser à ces trois-là. Et ça, c'est mon rôle, de pouvoir conduire la communauté dans ces trois domaines. C'est pour ça qu'on a Moving Glad, qui est là pour remettre l'accent sur l'adoration en esprit, en vérité, sur le leadership qu'on va développer dès que la salle web sera terminée, pour les formations, la théologie, tous les domaines de leadership qu'on verra, hein, qui sont très nombreux, qui sont théologiques, psychologiques, spirituels, etc., qui doivent être développés par le leader et aussi par l'action dans le monde, pour être témoin de ce monde, des agissants dans le monde, dont fait partie aussi l'œuvre de la Gerbe et l'œuvre de ce qui se passe au Mureau, avec lequel nous sommes collaborateurs, mais aussi l'évangélisation dans le monde, etc. Tous ces trois éléments doivent se manifester dans l'Église et doivent être manifestés. Et c'est là que la communauté peut être une communauté selon Dieu, selon la Bible. Et les pasteurs qui disent « Ah, il n'y a pas de modèle », ben, je dis « Si, regardez, il y a un modèle ». Et ce modèle, c'est le modèle qui est basé sur la Trinité divine, Père, Fils, Saint-Esprit. Et ce n'est pas n'importe quel modèle, c'est le modèle éternel qui nous est donné pour que nous puissions vivre tel que Dieu le veut. Amen. Seigneur, nous te prions pour que ta parole, qui est agissante et puissante, Seigneur, puisse nous aider à développer, Seigneur, ce modèle en particulier biblique, mais aussi sur le leadership, Seigneur, qui est tellement important dans la transmission de l'ADN, la transmission de la vision, la transmission de ce que cette Église a vécu, même ceux qui n'étaient pas là, et qui doit transmettre pour être un élément puissant dans cette région, pour glorifier ton nom. Seigneur, c'est là la finalité, c'est que toi seul revienne la gloire. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.